بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. Dans ces versets, mes chers frères en islam, Allah Azza wa Jal révèle au prophète alayhi salat wa salam que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Il a été créé d'une giclée d'eau sortie entre les lombes et les côtes. Allah essaie d'être capable de le ressusciter. Le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets, il n'aura alors ni force ni secoureur. On avait commencé il y a quelques semaines le tafsir de At-Tariq, de Surat At-Tariq, dans lequel nous avons vu qu'Allah Azza wa Jal, va se rapprocher Inch'Allah, dans lequel on avait vu qu'Allah Azza wa Jal commence Surat en faisant Qasam par le ciel et par At-Tariq. Et on avait dit que lorsqu'Allah Azza wa Jal fait le Qasam par une créature, c'est pour montrer également l'importance de cette créature. Mais dans notre cas, nous, êtres humains, créatures d'Allah Azza wa Jal, on a le droit de faire le Qasam, de jurer que par Allah Azza wa Jal. On ne jure pas par une créature, on ne jure pas par quelque chose qui nous est cher, ou alors pour montrer de l'importance, non. Ça c'est Allah seul qui a le droit de le faire. On ne jure pas sur ses parents, sur la vie de ses parents, ou sur la tête de sa mère ou autre chose. Ça, ce sont des alfa de shirk. Ce sont des mots qui rapprochent l'être humain du shirk. Allah seul a le droit de jurer par une créature. Wassama et Wattariq, on avait expliqué que At-Tariq, c'est comme Allah Azza wa Jal dit, وَمَا دَرَكَمْ أَطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ. Allah Ta'ala parle également donc d'étoiles lumineuses, d'astres nocturnes. Et ça nous a donné l'occasion de parler de l'immensité du ciel, l'immensité plutôt des cieux. Et sachant que la création des cieux et de la terre est plus importante et plus gigantesque que la création de l'homme, nous comprenons, nous déduisons que subhanallah, l'esprit cartésien de l'homme est tellement loin de la vérité, parce que l'homme n'a pas terminé de comprendre comment est organisée la création d'Allah sur la terre. On n'a pas fini de découvrir le nombre d'espèces, animaux, végétaux ou autres qui existent. On n'a pas fini de comprendre comment notre propre corps fonctionne, comment le cerveau humain fonctionne. C'est des choses que les scientifiques, neurologues, etc. n'arrivent toujours pas à saisir entièrement. Parenthèse sur parenthèse, un médecin, déjà dit dans notre assemblée, un médecin généraliste musulman me disait une fois que l'être humain n'utilise qu'un pourcent de son cerveau. À peu près, nous utilisons qu'un pourcent de la capacité qu'Allah a donnée à un être humain dans son cerveau. C'est quelque chose de puissant, d'extraordinaire, mais nous n'en tirons qu'un pourcent. C'est pour qu'on comprenne que on n'a pas encore fini de comprendre les choses qui sont présentes, nous-mêmes, ce qu'il y a dans nous. Alors n'en parlons plus de la réflexion sur la création des cieux, alors qu'on n'est même pas arrivé, je parle sur le plan scientifique, pas ceux qui ont iman, hein, ils ne sont même pas arrivés à la déduction, à la compréhension qu'au-dessus de nous, il y a un ciel. Et que Allah dit que ça, c'est plus puissant que ce que vous voyez là. Et ce que nous voyons là, ce que nous palpons, ce que nous constatons, on n'arrive même pas à décrypter un quart ou un tiers. N'en parlons plus de ce qu'Allah a décrit comme étant plus important et que nous ne savons même pas que ça existe. Alors si on devait méditer sur la grandeur d'Allah par le biais de la création des cieux et des créatures extraordinaires, exceptionnelles, indescriptibles, qui peuplent ces cieux, qui sont beaucoup plus nombreux que les pauvres petites créatures sur la terre, subhanallah, hein, c'est impossible. Impossible de méditer sur la grandeur d'Allah à travers toutes ses créations, subhanallah. Ça nous fait comprendre qu'on est immensément, immensément petit. Vraiment, on ne représente, subhanallah, strictement rien dans la création d'Allah Azza wa Jal. Vous savez, au toit du Baytul Ma'mour, l'équivalent de la Kaaba au niveau du ciel, hein, il est dit que, j'ai plus le chiffre en tête, mais il y a des milliers, des dizaines de milliers de malaïka qui tous les jours rendent visite à ce Baytul Ma'mour et ils ne reviendront jamais. Ils viennent une fois et basse. Et les anges vivent jusqu'à quand? Combien de temps vit un ange? Jusqu'au Qiyamah. un ange ne meurt pas de maladie ou de fin de vie ou de mort naturelle. D'accord ? Un ange vit jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala décide qu'il n'a, le qiyamah, que cet ange n'a plus besoin, n'a plus de fonction. Vous voyez ? Tous les jours, des milliers qui viennent rendre visite au Bayt al-Ma'mour, c'est depuis quand ça ? Pas depuis Al-Nabi alayhi salat wa salam, depuis la création. Depuis le début de la création jusqu'au qiyamah. Et un même ange ne vient pas une deuxième fois. Alors, imaginez la population qu'il y a dans les cieux. Et puis nous, qu'est-ce qu'on dit ? Ah, moi, je m'y connais mieux. Il n'est pas vrai tout ça. Écoute pas arabe, écoute pas moulissab. Ça, il n'est pas vrai, ça. Allons profiter de la vie. Il n'y a pas de problème, non. Allah, il pardonne. C'est comme si on prétend connaître mieux Allah que lui-même qui a décrit le Coran, « Nabi ibadi, anni anna al-ghafur al-rahim, anna azabi huwal azabul alim. » Attention, ma clémence, elle est immense. Mais mon châtiment, il est également douloureux. Alors, ça, c'est dans le cas du musulman. C'est comme si on connaît plus Allah. On dit que non, Allah, il pardonne. Le jour de Qiyamah, tout le monde entrera au paradis. Il n'y aura pas de problème. Ça, c'est au niveau des musulmans. Et au niveau des kuffars, ils se disent qu'il ne peut pas y avoir de Dieu, de créateur. La notion d'éternité ne peut exister. Toute matière a une origine, a une source, a une composition. On ne peut, etc., etc., etc. Cet être humain qui, avec le petit cerveau qu'il a, le peu qu'il peut en puiser, il ose émettre des thèses sur la création d'Allah. Et en allant jusqu'au point de non-retour, sauf ceux à qui Allah donne la hidayah, d'affirmer qu'il n'y a pas na'oudou billah de créateur. Uniquement parce que son cerveau ne peut concevoir qu'il y ait quelqu'un qui a toujours été là, qui a tout créé, et qui sera toujours là. Parce que le cerveau humain n'est pas fait pour comprendre la notion d'éternité. On ne peut pas comprendre quelque chose, on ne peut pas comprendre quelque chose quand on n'en a pas les outils. D'accord ? J'aimerais donner un exemple, mais je ne trouve pas d'exemple adéquat. Hein, si on n'a pas les programmes, on n'a pas les logiciels qu'il faut pour comprendre quelque chose, hein, est-ce qu'avec mon petit portable, mon petit GSM, est-ce que je peux décrypter des fichiers, je ne sais pas, c'est bête l'exemple, hein, est-ce que je peux décrypter des fichiers top secrets de la NASA ou du FBI ou de la CIA avec mon petit portable, je ne sais pas, Nokia à 20 euros? Mais jamais, il dit, mais tu es fou! Dit avec ça ou ça fait le Jack Bauer, c'est pas possible, d'accord ? Mais c'est décalé l'exemple, d'accord ? C'est-à-dire qu'avec le peu de logiciel que j'ai, le peu de compétences qu'Allah a donné à l'être humain, on ne peut, yani, par déduction, émettre des thèses sur ce qui nous est inaccessible. C'est-à-dire que jamais n'utilisez pas ça pour parler de ce qu'il y a là-haut, pour parler de Al-Ghaib. C'est pour ça que ceux qui essaient de comprendre la religion par leur intelligence, ils se plantent complètement, la tête de le mur. Tant qu'on n'a pas Al-Ladina Yuminu Nabil Ghaib, on ne pourra pas avoir un brin de iman. Parce qu'il suffit de ne pas croire en une chose qui a été annoncée par Allah ou son prophète pour ne pas être musulman. Si quelqu'un dit que je ne pense pas que les hommes seront toujours heureux dans le paradis, à un moment donné, on va s'ennuyer. C'est suffisant pour faire le kufr. Parce qu'on remet en cause un khabar, une information qui est venue dans le Coran. Donc, jamais essayer de décrypter, de comprendre Al-Ghaib uniquement par ça. Non, ne comprenez pas par ça. Comprenez par ça, par le cœur, par ce qu'il y a dans votre cœur, par le iman. Et c'est pour ça que les gens, hein, qui prennent le chemin de la logique, la cohérence, l'esprit cartésien, ils n'arrivent pas à trouver la vérité. Et Shaytan fait le maximum pour les garder dans ce cercle vicieux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir, non. Mais réfléchissez sur ce qui est accessible, sur ce que vous maîtrisez. Ne réfléchissez pas, n'essayez pas de comprendre ce qu'Allah ne vous a pas donné la possibilité de comprendre, entre autres, tout ce qui a trait à l'au-delà. Demandez à un scientifique, mais hein, il ne croit pas à l'existence des cieux, n'allez pas lui parler des anges, hein, il va se moquer de vous, il va dire n'importe quoi, d'accord ? Donc, subhanallah, Allah Ta'ala parle au début du verset du surat At-Tariq, du ciel, on a vu la création des cieux, et At-Tariq, et on a parlé un petit peu des étoiles, les spécificités des étoiles, et pourquoi Allah Ta'ala a créé les étoiles. Et on a vu également les shayatines qui montent au ciel, qui prennent les informations, qui les rapportent aux devins, etc., aux gourous, non pas aux gourous, aux devins, aux marabouts, hein, je cherchais le mot marabout, etc., etc. Et tout ça, c'est par autorisation d'Allah Azza wa Jal pour éprouver les gens, qui sait qui va écouter le marabout, qui sait qui va plutôt croire en Allah et qui va avoir la conviction que même si cette personne me dit des choses qui se réalisent, malgré ça, je sais que je n'ai pas le droit d'avoir recours à ce genre de source parce qu'Allah Ta'ala me l'interdit
parce que mon prophète m'a mis en garde que celui qui va, qui écoute, qui croit, cette personne a renié ce qui a été révélé sur le prophète alayhi salatu wasallam. Donc ça c'était concernant An-Najm al-Thaqib. On a vu également, je crois qu'on a vu ça, In kullu nafsin, oui, in kullu nafsin lamma 'alayha hafid. Il n'est pas d'âme qui n'est sur elle un gardien. Et on a vu que il y a deux catégories de gardiens. Il y a les gardiens qui écrivent les actions, les bonnes comme les mauvaises. Et ça, on a expliqué qu'il n'y a pas une personne qui est balir sans qu'il y ait des anges qui écrivent ses actions bonnes comme mauvaises, les paroles qu'elle prononce, et qui savent même décrypter ce qu'il y a dans son cœur en termes de niya, en termes d'intention. Et ces anges-là, la ya'asuna Allah ma amrahum. D'une manière générale, les anges ne désobéissent pas à Allah. Ils exécutent leur mission comme Allah Ta'ala leur a demandé. Et on avait expliqué également quel est le rahmat d'Allah concernant la rédaction des actions des êtres humains. Si un musulman a l'intention d'accomplir une bonne action et qu'il y a un empêchement et que ce musulman ne peut pas le faire, le niya est suffisant pour qu'Allah Azza wa Jal ordonne aux anges d'inscrire là la bonne action. Et lorsqu'un musulman accomplit un péché, Allah ordonne aux anges de patienter quelque temps pour voir si ce serviteur va demander tawbah à Allah Azza wa Jal. Si ce musulman va demander tawbah, Allah ordonnera aux anges de ne rien inscrire. Mais si ce musulman persiste dans le péché ou ne retourne pas vers Allah, n'a pas de prise de conscience, là Allah Ta'ala ordonnera aux anges d'écrire réellement. Et Allah Azza wa Jal est tellement clément qu'il va essayer, enfin Allah ne va pas essayer, mais Allah va créer des situations pour que ce musulman demande tawbah ou pour que ce musulman connaisse des situations lui-même dans sa vie qui feront que ses péchés finiront par être pardonnés. Parce que si nous ne nous allons pas vers Allah demandant tawbah, en se repentant, en arrêtant de faire les péchés, ben Allah Ta'ala dans sa clémence peut nous envoyer des épreuves, maladies, pertes d'enfants, pertes de biens, etc., etc., dans le but d'effacer les péchés et de nous ramener vers lui. Chose que moi, pauvre être humain, je vais voir comme étant des calamités, na'ouzou billah, comme une injustice de la part de mon Seigneur même, que je suis un musulman, je fais mes prières, mais il m'arrive telle et telle chose, mais Allah dans son infime, dans sa clémence et sa générosité infinie, Allah subhanahu wa ta'ala sait pertinemment que ce qu'il envoie pour l'être humain, cette difficulté, c'est dans le but d'annuler un péché qu'il a accompli il y a 5 ans et qu'il n'a jamais demandé tawbah, et que s'il le rencontre Allah avec ce péché-là, il va avoir beaucoup de problèmes le jour de la résurrection. Donc Allah va envoyer cette épreuve pour que cette parenthèse de notre vie, cette mauvaise chose qui est arrivée, ce péché qu'on a accompli, que cela soit expié, soit effacé, soit enlevé par le biais de cette maladie, par le biais de cette hospitalisation, par le biais de cet accident de voiture, par le biais de cette perte de biens, par le biais de n'importe quelle épreuve que le musulman va vivre, et il va faire preuve de patience et pour lequel il va accepter la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ça c'est dans la sagesse, de la clémence infinie et immense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a cette catégorie de hafiz, de gardiens, ceux qui écrivent les actions. Et puis il y a une autre catégorie de gardiens, ça on n'a pas abordé parce que ce n'est pas ce qui est concerné par le verset. Si je retrouve le verset, ou alors ce n'était pas dans le livre. Oui, « Lahu mu'aqibatum min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah » Il y a également des anges qu'Allah Ta'ala envoie sur le dunya pour protéger l'homme contre les mauvaises choses. On demande à Allah de nous protéger, Allah nous protégera. Ça peut être directement, ça peut être par le biais de malaïka qui sont là et qui nous protègent. C'est pour ça qu'il faut toujours demander à Allah Azza wa Jal ce doigt « A'udhu bi kalimati Allahi ta'amati min sharri ma khala »« Bismillah illadhi la yadurru ma ismi shay'un fil ardi » Voilà, fils Samaï, wa wassami'un alim. C'est très important, lire matin, à lire le soir, à enseigner à nos enfants. Tout comme on les enseigne le doigt avant manger, après manger, il faut absolument les enseigner ce doigt-là pour qu'ils aient la confiance en Allah, qu'ils comprennent que si je demande à Allah de me protéger, Allah va me protéger et pour qu'ils soient réellement protégés par Allah Azza wa Jalla. Donc Allah peut protéger directement que rien n'atteigne la personne, comme lorsqu'Allah Ta'ala protégeait le prophète alayhi salatu wassalam contre les gens, ou Allah ya'asumuka minan nas, ou Allah Ta'ala parfois protégé, quand le prophète était parti voir les Yahoud de je ne sais plus quelle tribu, Qaynuqa ou Quraïda, et que cet un des Yahoud voulait jeter une pierre sur le prophète sallam, le tuer, l'écraser. Allah Ta'ala mit le wahid à son cœur immédiatement, lève-toi et quitte cet endroit. Parce qu'il y a des gens qui te veulent du mal. C'était sans qu'il y ait de malaïka. Allah protégeait le prophète sallam sans asbab, sans intermédiaire. Tout comme Allah avait protégé le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam lors de l'immigration par le biais de Al-Ankabut, par le biais d'une araignée, par le biais de colombes, etc., qui avait, hein, qui était devant la grotte, l'histoire est très connue. C'est donc par le biais de créatures, d'animaux. Tout comme Allah azza wa jal a protégé le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam par le biais de son oncle Abu Talib, qui de son vivant empêchait les gens de lui faire du tort, etc., etc. De la même manière, Allah peut protéger n'importe qui par le biais sans intermédiaire ou avec un intermédiaire, quels que soient ses asbab. Et cela peut être également les malaïkas, les anges qu'Allah a envoyés sur le dunya pour protéger l'homme contre les mauvaises choses. Encore faut-il demander à Allah la protection. Et surtout, ces anges-là protègent contre les choses mauvaises qui ne nous sont pas destinées. Maintenant, si Allah a destiné qu'une personne soit atteinte de telles choses, ou qu'une personne, hein, on avait parlé un peu de sihr la dernière fois, de sorcellerie, qu'une personne soit atteinte par des shayatines, même s'il y a des malaïkas, mais si c'est muqaddar, si c'est écrit dans son destin, la personne n'échappe pas à son destin. Et cette épreuve lui touchera dans un but précis, pour que la personne s'en relève, en revienne plus fort, pour que la personne développe des qualités de foi, pour que la personne se rapproche d'Allah par le biais des lectures du Coran, etc., etc. Donc tout est une question, hein, tout est dans la hikmah d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a des hafiz qui notent les actions, et il y a des hafiz qui protègent l'homme contre ce qui ne lui a pas été destiné. Et ensuite, là c'est le verset du jour. Alhamdulillah. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ. Maintenant, Allah Azza wa Jal interpelle l'être humain. Que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Et ça rejoint ce qu'on avait dit en introduction. Cet homme, subhanallah, si l'être humain réfléchissait quelle est son origine, d'où vient-il, et avant d'être sur le dunya, d'être un quadrupède, de grandir, d'avoir une consistance physique et intellectuelle et de devenir ce qu'il est, médecin, professeur ou je ne sais quoi, qu'il réfléchisse à la base, qu'est-ce que j'étais moi ? C'est-à-dire que si l'homme se rappelait de quoi il est né, ben il se montrerait moins fier et il ferait preuve de moins d'orgueil et cette personne, hein, irait moins vers al-fasad ou fil-ard. Cette personne ne causerait pas la turpitude, le trouble dans le dunya. Ça, c'est un rappel d'Allah Azza wa Jal vers l'humilité, pour que l'être humain fasse preuve d'humilité, de tawadu. Aujourd'hui, on voit des gens qui sont devenus riches, très forts, très puissants, respectés dans la société. Ils marchent le torse tellement bombé qu'on a peur qu'il leur arrive des choses. Ils sont tellement fiers, ils touchent le pied, ils touchent le pied à terre. Mais subhanallah, ramener la machine 40 ans avant, quand tu étais encore un bébé, quand tu faisais caca dans ta couche et que ta maman te changeait, ramène la pendule quand, subhanallah, Allah a créé ton ruh après qu'une goutte de sperme entre dans l'appareil utérine, je ne sais pas comment on a dit ça, dans le ventre de la maman pour que cette goutte de sperme va être fécondée et devenir un caillou de sang, un morceau de chair, ensuite un embryon, ensuite quelque chose de lequel le ruh sera introduit et un petit être humain jusqu'à ce qu'il naisse. Subhanallah, ça c'est un rappel et un appel vers l'humilité, vers At-Tawadu. Et maintenant, cet être humain est devenu adulte, est devenu beau, est devenu intelligent, est devenu riche. Cette personne ose déclarer qu'il n'y a pas de Dieu, ou alors que cette personne ose accomplir ouvertement des péchés sans se rappeler que c'est Allah qui m'a donné la vie. Quand j'étais petit, c'est Allah qui m'a protégé. Dans toutes les phases de ma jeunesse, Allah a fait en sorte qu'il ne me manque rien. Allah a fait en sorte que tout se passe bien pour moi, subhanallah. Je parlais avec une personne hier, un ami, il m'expliquait un peu sa jeunesse, les difficultés. C'est quelqu'un qui s'est converti à l'islam, alhamdulillah. Il expliquait comment à l'âge de 4 ans, 5 ans, il dormait dans la rue, hein, son père était violent, le chassait de la maison, chassait sa maman, des situations très difficiles qui font qu'une personne n'a pas une croissance normale et n'a pas de stabilité parfois dans sa vie. Voyez? Mais quelqu'un qui a eu tout de la part d'Allah, toutes les conditions sont réunies, la personne marche droit, en bonne santé, elle est, de sa tête ça va, a réussi dans sa vie, comment quelqu'un peut délibérément désobéir à Allah, délibérément renier, dénigrer tous les ni'amas qu'Allah lui a accordés et se dire que non, ben, j'ai travaillé, hein, j'ai fait des études, hein, si j'étais resté assis, je n'aurais pas eu tel diplôme, si j'ai tel statut de la société, c'est que je l'ai bien mérité. Subhanallah, imagine que dans ton enfance, il t'était arrivé un accident et que mentalement, tu n'étais pas comme tu l'es maintenant. Et c'est vraiment Allah qui a fait en sorte que tu as été comblé de bienfaits jusqu'à arriver à ce stade. Aller rendre visite aux enfants dans les hôpitaux, aller à l'hôpital d'enfants, aller voir les endroits où il y a des enfants qui sont malades et des enfants qui savent pertinemment que jamais, quand ils seront grands, ils deviendront normaux. Et que les parents savent que cet enfant-là ne sera jamais un enfant normal. Et comprenez la douleur de ces gens et comprenez comment Allah Ta'ala nous a comblés et que nous, alhamdoulilah, même si on n'est pas très riche, même si on n'a pas beaucoup de choses, que alhamdoulilah, on est muhtaj, on a besoin de personnes. Maintenant, comment ingrat je serais si j'utilise tout ce qu'Allah m'a donné pour désobéir à Allah Azza wa Jal. Imaginez cette personne à qui le médecin annonce que voilà, vous avez un problème de santé qui est tel au niveau des yeux ou je ne sais quoi, que vous allez perdre l'organe peu à peu et que la personne devienne aveugle. Et que cette personne donnerait tout ce qu'elle possède au monde pour retrouver ses yeux. Et que nous, alhamdoulilah, on voit, il n'y a pas de problème, on ne porte pas de lunettes, ou même si on en porte, mais on voit bien, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème là-dessus, et que je vais utiliser ces bienfaits-là dans la désobéissance d'Allah Azza wa Jal. Comment injuste je serai, comment ingrat je serai si j'utilise ces choses-là dans la désobéissance d'Allah Azza wa Jal. On a besoin de se rappeler de tout ça. À travers le rappel, que chaque être humain se rappelle de quoi a été créé. Mais même si on ne remonte pas la pendule aussi loin, mais rappelez-vous, regardez à travers de vous les gens qui sont éprouvés. Il y a des gens qui sont à l'hôpital, je ne sais combien de temps, ils ne peuvent pas avoir d'activité professionnelle, ils n'ont plus de vie de famille, ils n'ont plus d'amis à un moment donné, parce qu'ils restent à l'hôpital, ils ne peuvent plus vivre comme tout le monde. Et subhanallah, nous on n'a pas ces problèmes, on a tous les bienfaits qui sont réunis et on ose désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. De quel droit? Il est nécessaire parfois, mes chers frères, de se rappeler d'où on vient, qu'est-ce qu'Allah nous a donné. Et un rappel magnifique, lorsque notre prophète alayhi salatu wa sallam nous a dit que كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة أو تذكركم الآخرة فإنها تذكر الآخرة. Le prophète عليه الصلاة والسلام, ce hadith conseille à l'être humain de rendre visite dans les cimetières, d'aller voir les gens qui sont décédés. Hein, ça rappelle l'au-delà. Et certains savants sont également d'avis que une autre action qui rappelle à l'être humain les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, c'est de rendre visite aux gens qui sont à l'hôpital. J'ai été voir un frère de Saint-Denis, centre-ville, qui est à l'hôpital depuis le mois de janvier. On a été le voir avec un ami. Il est en immunologie. C'est quelqu'un qui était atteint de tumeurs, de différentes tumeurs à des endroits, certains endroits de son corps, et que la personne est depuis, mars, avril, mai, 4 mois. Depuis 4 mois, la personne est alitée à l'hôpital, dans beaucoup de difficultés. Pour trouver sa chambre, il s'est perdu, il passait par beaucoup de couloirs, beaucoup de services. Là, je vois les grands brûlés. Là, il y a telle chose, il y a telle chose. On regarde, j'ai pas vu les malades, hein. Juste en regardant les affiches, ça c'est pour les grands brûlés, ça c'est pour ceux qui ont été opérés de l'intestin, ça c'est pour les gens qui sont en phase terminale, ça c'est cancer, ça c'est problème de reins, etc. On se dit, ah Allah, le nombre de maladies qui existent, et chaque service est rempli de personnes qui sont souffrantes, qui sont malades. Et moi, je marche, je sautille, je monte, je descends les escaliers. Quand j'ai rendu visite à cette personne, je vais rentrer chez moi, je vais prendre une glace, je vais retrouver madame, on va regarder la télé, on va faire je ne sais quoi, etc. etc. Je me dis, Allahu Akbar, comment rafil, comment insouciant je serais si je menais ma vie comme ça. Demandez à quelqu'un qui est à l'hôpital, qu'est-ce que tu ferais si Allah te donnerait la santé? La personne dirait que je reste dans ma masjid. Je promets, je fais la promesse à Allah Azza wa Jal, s'il m'accorde la santé, je quitte celui d'hôpital, je n'occupe plus de fonction dans le dunya, aucune activité, si ce n'est rester dans la masjid de ce dunya, rester dans l'adoration d'Allah jusqu'à ma mort. Si Allah me redonne ma vue, si Allah me donne la possibilité d'échapper à ces appareils qui drainent mes reins, qui m'empêchent d'avoir une activité professionnelle normale, si Allah me redonne telle chose, qui me permet de marcher de nouveau, etc. etc. Chaque fois, il est nécessaire de revenir un peu en arrière et de se rappeler des bienfaits d'Allah pour ne pas se montrer ingrat. Parce que quand on se montre ingrat, qu'est-ce qui se passe parfois? Qu'Allah nous protège. Que personne ne soit éprouvé, Inch'Allah. Parfois, Allah Ta'ala, on voit ce qu'on appelle des piqûres de rappel. Qu'une personne, elle grimpe, elle est dans rafla, insouciance. Tout va bien, elle jouit, elle profite de la vie, elle croque la vie à pleines dents. Et finit par oublier Allah peu à peu. Parce que ces deux choses-là ne peuvent cohabiter. L'amour sincère d'Allah et l'attachement sincère avec le dunya. Ça, ces deux choses-là ne peuvent cohabiter, c'est pas possible. Donc Allah voit qu'on est en train de dérailler, peu à peu, on perd un mètre tous les jours, on est en train de changer d'objectif, de perdre notre objectif final, Allah Ta'ala peut reprendre un bienfait. Pour que l'être humain se remette en question et qu'il se rappelle que c'est vers Allah que je dois me diriger quand je suis dans la difficulté, pour que l'être humain revienne vers Allah Azza wa Jalla. Donc quand on est trop ingrat, soit Allah, encore il a le rahma, il a la pitié pour l'homme, il le ramène par une épreuve, ou alors Allah Ta'ala peut laisser la personne, laisser, dégager, éloigner. Mais quand Allah Ta'ala va prendre, ce sera barta, direct. Et le hisab sera du cash dans le delà. Il y a un verset au Coran dans lequel Allah Ta'ala dit, le verset ne me revient pas, que quand Allah accorde la richesse, si quelqu'un a le verset en tête, quand Allah accorde la richesse à des gens, Allah Ta'ala laisse les personnes s'enlisser dans ses bienfaits, dans ses richesses, et Allah ne les éprouve pas, jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala reprend la personne, mais d'une manière brutale. Et là, le hisab sera terrible pour la personne, qu'Allah nous en protège. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ. Que l'être humain, donc, réfléchisse, qu'il regarde, qu'il considère de quoi il a été créé. Et quand on est cet être humain, soit à un moment donné, il dit qu'il n'y a pas de Dieu, soit il va faire des péchés. Et nous voyons dans le dunya, nous voyons il y a des tyrans. Nous entendons à travers l'actualité qu'il y a des gens qui sont zalim, qui font preuve de vol, d'oppression. Allah leur a donné al-mulk. Allah leur a donné la possibilité du imar, de diriger les gens, une population, musulmane ou non musulmane, et que la personne se sent intouchable, se sent au-dessus de tout le monde et fait preuve de vol, d'injustice. Mais tout ça, Allah Ta'ala laisse ces personnes-là agir jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala prenne une décision pour eux. Et une personne m'avait posé une question dernièrement. Je ne sais pas si on peut aborder le sujet, ou alors je pense qu'on ne peut pas aborder ce sujet, parce qu'on n'est plus en démocratie, Allah musta'an. À propos de certaines choses qui vont être mises en application. Personne me dit qu'une dame, c'est une élève, qui fait des études maintenant, alhamdoulilah, dit que Moïssa, mais comment est-ce qu'Allah Ta'ala peut laisser des gens prendre de telles décisions qui vont aller à l'encontre des musulmans, qui vont rendre difficile la vie de musulmans. Et subhanallah, ça c'est une épreuve de la part d'Allah. C'est une épreuve pour ces gens qui ont le pouvoir, comment est-ce qu'ils vont agir? Bien sûr, quand il n'y a pas l'iman, khalas, hein? Mais également pour les mu'mines qui vivent sous le volm, sous l'oppression, les actions et l'obéissance envers Allah, la soumission à Allah, le fait de rester éloigné du haram dans un contexte difficile, ben cela aura son poids, le jour de la résurrection. Et rappelez-vous l'exemple qu'on donnait tout le temps, différence entre quelqu'un, on va garder un exemple très, très facile, différence entre quelqu'un qui s'est baissé son regard et qui se protège de l'adultère à l'île de la Réunion ou en France ou un endroit avec un contexte similaire, différence entre cette personne, le degré de sacrifice, et celui qui fait la même action, qui s'éloigne de l'adultère, qui contrôle son regard et qui habite en face de Haram, à Mecca ou à Madina, à Munawwara. C'est pas le même sacrifice. C'est le même péché, ils se sont éloignés du même péché, ils se sont abstenus du même haram, mais d'un côté, le haram était accessible et envahissant même, et donc résister, c'était vraiment un mujahada énorme, tandis que de l'autre côté, il n'y a pas de fitna zahir, ce qui fait que ce n'est pas exceptionnel de faire preuve de sobre ala hadil ma'asiyah. Donc plus on vit dans un contexte où la pratique de la religion est difficile, sachez que ces actions-là auront plus de valeur auprès d'Allah. Continuez à faire la salat, à respecter les ordres d'Allah, etc., etc., dans un contexte qui n'est pas favorable, avec des gens qui font preuve de dhulm, qui font tout pour dégoûter le mu'min de son dîn et pour dégoûter les non-musulmans du dîn, parce qu'ils savent pertinemment qu'il y a trop de conversions, il y a trop de personnes qui rentrent à l'islam, et ça fait peur. Les chiffres, on n'a pas le droit de les avoir, parce qu'on n'a pas le droit de faire des recensements de personnes sur la base de leurs convictions religieuses. Mais il y en a qui les ont, les chiffres. Nous, on n'a pas, nous, commun des mortels. Non pas, mais eux, commun des mortels aussi. Eux, ils ont des chiffres. D'accord? Ils savent que le nombre de personnes qui se convertissent par jour, ça n'existe pas dans aucune autre religion. D'accord? Et ça fait peur. Et on sait, ils savent pertinemment qu'arrivera un jour où, ben, subhanallah, il y aura une grosse, grosse partie de la population qui diront « La ilaha illallah » et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fera, etc., etc. Donc, quand vous voyez qu'on essaie de dégoûter le musulman de son dîn en le faisant passer pour quelqu'un d'archaïque, que cette religion est en décalage, il ne faut pas faire ci, faire ça, etc., ou qu'on essaie en même temps de décourager les gens, de montrer que les musulmans sont vraiment c'est des spécimens, c'est une race à part, infréquentable, avec des idées vraiment arriérées, pour que les personnes n'aient plus envie de se convertir. Il y a des efforts qui sont faits dans ce sens, mais sachez, mes chers frères, qu'Allah Ta'ala a promis dans le Coran que yuridu na yutfi'u nur Allahi bi afahim, blablabla. Ils veulent atténuer la lumière d'Allah par leur bouche, des discours, des paroles, des écrits, des blogs, des FB, de tout ce que vous voulez. Ils essaient, mais, Wallahu mutimmu nurihi. Allah Ta'ala, en ce sens, va parachever sa lumière. Le nour de l'iman, de l'islam, de la hidayah, si Allah a décidé de le propager, Allah le propage. À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'ils étaient une poignée, le prophète, alayhi salatu wassalam, avait annoncé que ce dîn-là arrivera dans tous les coins du monde. Imaginez les mouchriquins, les puissants, les aristocrates de la Mecque. Ils écoutent le prophète, alayhi salatu wassalam, dire ça, alors qu'il ne peut pas sortir de chez lui sans se faire insulter, sans qu'il y ait des problèmes. Sa propre famille le renie. Et il vient dire à Taïf, il sort de Taïf, agressé par ses voisins, et il annonce que ce dîn-là ira dans le monde entier. Mais il est vraiment, subhanallah, c'est n'importe quoi ce qu'il dit. Mais regardez ce qu'Allah a décidé. On a tout fait, ils ont tout fait pour que le prophète soit assassiné, ou soit expulsé, soit emprisonné, ils ont tout fait. Ils ont fait le maximum. Le prophète a dit que Allah fera parvenir ce iman dans toutes les régions du monde. Et regardez dans le jour, il n'y a pas un endroit dans le monde, il n'y a pas un continent dans lequel il n'y a pas quelqu'un qui dit là, il a promesse d'Allah. C'est la promesse d'Allah. Et même si le zulm aujourd'hui prend une autre apparence, avec d'autres supports, mais cette lumière-là, elle va s'étendre. Qu'on fasse des efforts ou qu'on ne fasse pas. Si vous savez le nombre de personnes qui se convertissent uniquement en lisant le Coran en français, ou en allant, ou en écoutant des émissions sur Internet, ou je ne sais quoi, en découvrant l'islam par des supports non humains, il n'y avait pas de lien direct, mais vous comprenez que, subhanallah, autant qu'il y a des zalims, des koufars qui utilisent ce genre de support pour casser et dénigrer l'islam, mais il y a l'effet inverse très souvent par les mêmes supports, Allah Ta'ala répand la guidée. Donc, Allah mutimmu nurihi, et à la fin, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala dit, wallahu même s'ils ne veulent pas, même si ça ne les plaît pas, mais ça c'est la décision d'Allah Azza wa Jalla. Donc, ne soyons pas tristes, comme disait Cheikh Al-Qarni, ne soyons pas tristes, ne nous attristons pas par ce qui arrive. À la fin des temps, le prophète alayhi salatu wassalam a dit que rester ferme dans son dîn, ce sera comme tenir une braise dans sa main. Touba lil ghuraba. Autre hadith, le prophète a dit que lorsque ce dîn a commencé, on considérait les premiers musulmans comme étant des raribs. Gharib, c'est quoi? C'est quelqu'un d'étrange, d'anormal, il n'est pas comme nous. Comme des rourabas, des gens étranges. Et le prophète a dit que reviendra une époque à la fin des temps où ce dîn, ou ceux qui le pratiquent, seront considérés comme des gens à part, comme des gens qui ne sont pas, comme tout le monde. Et le prophète a annoncé partout la bonne nouvelle à ces gens-là, qui dans les moments d'autres hadiths, qui a des moments difficiles de corruption, ces gens-là restent accrochés au dîn d'Allah Azza wa Jalla. Grande sera la récompense. C'est pas pour rien ce prophète me dit une fois que, en ce sens, j'ai hâte de rencontrer mes frères. Ça veut dire, prophète d'Allah, nous sommes tes compagnons. Le prophète me dit, oui, vous êtes mes compagnons. Il dit, mais mes frères, ce sont des gens qui viendront après moi, qui ne m'auront pas vu. Pourquoi qu'ils n'auront même pas vu le Coran révélé. On n'a même pas vu un verset. On ne sait même pas est-ce que vraiment la montagne là existe, tel endroit ça existe, telle chose ça existe. Mais qui vont croire avec fermeté, avec yaqin sur tout ce qui m'a été révélé, qui auront iman en Allah, ils sont prophètes. Ça, c'est le prophète a décrit ces gens comme étant ses ikhwan, comme étant ses frères. Qu'Allah fasse, nous accorde cette chance de faire partie de ces personnes. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقْ. Et on va arrêter là, Inch'Allah. Et quand on regarde, quand Allah Ta'ala parle de quoi l'être humain a été créé, يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. Il est écrit d'une gicle d'eau sortie entre les lombes et les côtes. Et les ulama disent, subhanallah, nous sommes créés d'une goutte de sperme. D'accord? C'est-à-dire que quand un homme a des rapports avec son épouse, avec il a envie d'avoir des enfants, subhanallah, Allah prend la décision qu'un seul, je ne sais pas comment on appelle un sperme, un spermatozoïde, ça fait longtemps qu'on a fait de biologie, il y a un seul qui arrive à passer, et qui va, inshallah, entrer dans l'utérus, je crois, et il y aura fécondation. Un seul parmi des millions. D'accord ? Mais ça, là, ce un seul qui passe, c'est pas un ordre d'Allah Azza wa Jal. Et quand ce un seul qui passe, Allah Ta'ala, à ce moment précis, il connaît que si c'est Dhakar ou Unsa. Comme Allah Ta'ala, il est dans le Coran, à la fin du paquet de surat, il dit que parmi les choses qu'Allah Ta'ala seul sait que Ma'afil Arham, ce qu'il y a de le ventre de la maman qui attend un enfant. Aucun rapport avec l'échographie, en parenthèse. Hein. C'est-à-dire l'échographie, à partir de quand vous savez que c'est un garçon ou une fille? À partir de 3 mois, parfois 4 mois. Non! Quand le spermatozoïde est l'élu, hein, on va l'appeler l'élu, il arrive à rentrer, Allah Ta'ala, il sait déjà, c'est Muqaddar. Est-ce que c'est Dakar et Unza? Chose qu'aucun être humain, aucun scientifique ne peut déterminer. Donc, que l'être humain se rappelle de quoi il a été créé, et ça, cette goutte-là, si une goutte de cette chose-là, du sperme, tombe sur votre vêtement, si vous êtes sali, vous faites la salat, votre salat ne compte pas, parce que c'est impur, c'est najis. Vous devez le laver. On est créé de quelque chose qui, à la base, est impur. Et maintenant qu'on a grandi, on a tout ça, l'être humain ose désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. On va essayer de continuer à développer ça la prochaine fois. On verra hein, l'esprit logique qu'il y a de le dire. Hein, Allah a dit « Innahu ala raj'ihi laqadir » et on verra, hein, verset, ça c'est poignant, « Yawma tubla sara'ir » ça c'est quand la vérité, hein, lorsque le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets. Lorsque ce qu'il y a vraiment au fond, là, ce sera apparent. De nos jours, nous jugeons sur l'apparence. C'est quelqu'un de grande barbe, bokafni, ça c'est un grand moulissable, ça c'est un grand pieux, c'est un grand saint en islam, c'est un grand je ne sais quoi. Mais dedans, on ne sait pas, hein, ça peut être rempli de tumeurs, hein, c'est généralisé, les péchés, c'est madrièche, d'accord ? Mais le jour de la résurrection, on ne regarde pas à l'extérieur. Allah Ta'ala dit, yo, matoub la sara'il. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui seront... Qu'Allah nous accepte d'un tawfiq de comprendre ces quelques paroles. Wallahi, j'ai plus besoin de ces paroles que vous. Qu'Allah me pardonne si je dis des choses et que moi-même je ne mets pas en pratique. Hein, mais qu'Allah ait pitié de nous. Que ce soit un asbab, un intermédiaire pour qu'on ait un petit retourné, un petit ravifie la foi un petit peu. Qu'Allah me donne moi-même en premier le tawfiq de mettre en pratique à nous tous et nous ramène vers lui, vers le droit chemin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.